Un commencement est ce qui vient d'abord dans une durée ou un processus. C'est le début de quelque chose. On parle du commencement du siècle, de l'année, de la semaine, du mois, du printemps, de la vie. L'aube est le commencement du jour. On peut aussi commencer une action, un discours ou un raisonnement. Et on a coutume de dire « il y a un commencement à tout ». C'est vrai, sauf pour le monde spirituel. Dès la première phrase de son évangile, l'apôtre Jean nous fait reculer le long couloir de l'éternité dans l'immensité de l'infini jusqu'au grand commencement qui n'en est pas un. Quel spectacle majestueux et grandiose! Si cela me laisse perplexe, c'est parce que Jean me fait transcender le misérable bocal espace-temps qui, tel des poissons rouges, nous emprisonne. Les premiers mots de cet évangile sont « au commencement était la parole », c'est-à-dire le « logos » en grec. Jean veut dire qu'avant toute chose, avant la création de l'univers, il y avait l'expression absolue de Dieu dans toute sa présence. L'auteur nous emmène aux confins de la divinité et c'est là que tout a commencé pour nous. Le premier verset dit « au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Comme je l'ai déjà dit, le vocabulaire est très simple, mais quelle magnificence, quelle majesté, quel spectacle grandiose! L'évangile de Jean commence par affirmer clairement que Jésus, la parole faite chair, était d'origine divine, puisque quelques lignes plus loin nous lisons « celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous ». Verset 14. Ces mots « la parole est devenue homme » ont formé le cœur de la méditation et de l'étude des apôtres et pionniers de l'Église primitive. L'évangile de Luc est écrit de façon très méthodique parce qu'il s'adresse à des gens ayant une formation et culture grecque. Bien que sophistiqués, leur façon de penser s'arrête brutalement de fonctionner devant les phrases pourtant toutes simples que Jean a couchées sur le parchemin. Les philosophes sont incapables de sonder la profondeur de l'évangile de Jean. Ils ne veulent ni ne peuvent le suivre. Mais Jean ne fait pas que remonter dans l'éternité. Il l'amène avec lui sur terre quand il dit « personne n'a jamais vu Dieu ». Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Verset 18. Jean présente l'incarnation, Dieu manifesté en chair et en os, comme le fondement de son évangile. On peut encore ajouter que cet évangile non seulement commence, mais se termine sur la déclaration sans équivoque que Jésus est Dieu fait homme, avec la confession du disciple Thomas qui déclara au Christ « mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus-Christ est donc à la fois Dieu et un personnage historique, quelqu'un qui a véritablement vécu sur la terre, parmi nous. Luc, qui était médecin, considéra Jésus comme au travers d'un microscope, alors que Jean l'approcha d'une manière entièrement différente, et pourtant tous deux arrivent aux mêmes conclusions. Celui qui est, de toute éternité, a quitté la gloire du royaume des cieux pour venir nous rencontrer, vous et moi, là où nous sommes, ici-bas. Dans l'évangile de Jean, on trouve des échanges de dimensions cosmiques entre le ciel et la terre, non seulement au début, mais par la suite, au fil du récit, et encore davantage vers la fin, lorsque, par exemple, Jésus dit à ses disciples « c'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. » Fin de citation. D'une manière assez curieuse, à l'époque où est né le Christ, le monde païen était dans une sorte d'expectative. Il s'attendait à ce qu'un dirigeant d'une envergure mondiale fasse son apparition en Palestine. En effet, l'historien latin Suétone, dans son ouvrage « Les vies des 12 Césars », accumule les anecdotes dans ce sens, et c'est ainsi qu'il affirme que dans tout l'Orient, les gens croyaient sans trop savoir pourquoi qu'un grand homme naîtrait en Judée. Tacite, homme politique et historien sous l'Empire romain, écrit à peu près la même chose. Selon une certaine tradition, aux environs des années 30 de notre ère, donc au moment où Jésus a commencé son ministère, certains sages chinois étaient en quête d'un messie. Toute cette aurore mystique est surprenante. C'est un peu comme s'il y avait eu une intense activité dans le royaume des cieux qui aurait produit des échos sur terre. L'Orient de cette époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, était plein à ras-bord de religiosité de tous ordres. Des sectes sinistres et occultes se réunissaient dans des temples surchargés d'ornements pour pratiquer des rituels avilissants. Et pourtant, c'est bien de cet Orient mystérieux qui nourrit l'imagination que sont venus les rois mages dont on ne sait quasiment rien et qui ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Fin de citation. La liste de tout ce que Jésus a accompli en venant sur terre est longue. Alors qu'à cette époque, en Orient, tout comme en Occident d'ailleurs, la condition de la femme était particulièrement lamentable, le Seigneur est celui qui l'a ennoblie. Il vint sur terre né d'une jeune vierge et il fit son premier miracle lors des noces de Cana. C'était sa façon de souligner la sainteté du mariage aux yeux de Dieu, par contraste avec le faste sexuel oriental des harems à gogo. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, on voit aussi Jésus en train de converser autour d'un puits avec une dame pourtant de très mauvaises mœurs, et puis plus loin encore, il sauve la vie et pardonne à la femme adultère. Et comme j'ai déjà souligné, c'est à des femmes qu'il apparaîtra en premier lieu après être ressuscité des morts. Alors que les trois premiers évangiles furent écrits à quelque chose près selon la même perspective et en suivant un plan quasi identique, celui de Jean est différent. Matthieu et Marc insistent surtout sur le fait que Jésus détenait un pouvoir prodigieux, tandis que Luc se penche plutôt sur l'enseignement qu'il a donné par le biais des paraboles. Mais Jean a choisi quelques miracles pour les présenter comme des balises qui signalent des grandes vérités. Son évangile donne à la fois une séquence logique et chronologique aux événements qui s'enchaînent. Il définit avec précision les lieux et les villes où se déroule le ministère du Seigneur. Comme Jean met la divinité du Christ au premier plan, on aurait pu s'attendre à ce qu'il utilise surtout le terme « Christ », quand il parle de lui, puisque c'est son titre messianique qui évoque toute sa gloire. Eh bien, pas du tout. Il prend très en compte l'humanité du Seigneur en employant le plus souvent le mot « Jésus », qui est son nom en tant qu'être humain. De plus, seul Jean nous informe que lors d'un voyage, le Seigneur, qui traversait la Palestine à pied avec ses disciples, s'est assis au bord d'un puits parce qu'il était fatigué. Et c'est Jean qui nous donne le verset le plus court de la version française de la Bible avec ces deux mots « Jésus pleura » quand il exprima sa profonde tristesse devant la tombe de son ami Lazare. Les quatre évangiles débutent en situant Jésus dans son contexte historique. Mais celui de Jean est unique dans sa façon de commencer. Le premier chapitre de Matthieu est une généalogie qui relie le Christ au roi David et à Abraham. Marc est un évangile plein d'action et il enclenche son histoire avec la prédication de Jean-Baptiste. Luc débute en dédicaçant son œuvre à Théophile, un illustre inconnu, puis, soucieux des détails, il fait suivre cette introduction par la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste. Mais Jean ne commence pas sur terre. Il débute avec un prologue théologique afin de permettre à ses lecteurs de comprendre que les paroles et les actes de Jésus sont ceux de Dieu fait homme. C'est comme s'il avait dit « Je veux que vous considériez Jésus, son enseignement et tout ce qu'il a fait, mais vous ne pourrez comprendre pleinement la bonne nouvelle que si vous tenez compte du point de vue céleste. Jésus est Dieu en chair et en os, et ses paroles et ses actes sont ceux de l'homme Dieu. Ce prologue contient plusieurs des thèmes principaux sur lesquels Jean va insister tout au long de son évangile, comme la vie, la lumière, les ténèbres, le monde, le Fils de Dieu, le Père, la gloire de Dieu et la vérité. Deux autres termes théologiques, la parole et la grâce, ne sont utilisés que dans le prologue. Je commence maintenant à lire le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Versets 1 et 2. Ces premières paroles introduisent Jésus-Christ au moyen de trois affirmations extraordinaires. Tout d'abord, au commencement était celui qui est la parole. Comme je l'ai déjà dit, le mot « parole » est la façon habituelle de rendre le grec « logos ». Ce mot est par ailleurs un terme philosophique de la langue française. Ce titre de « logos » par lequel Jean désigne Jésus-Christ est, humainement parlant, le plus élevé qui soit. Il faut en effet savoir que pour Jean et ses contemporains, Logos est beaucoup plus chargé de sens que les mots « parole » ou « verbe » qui en sont la traduction. En effet, l'emploi de Logos unifie deux traditions. D'abord, pour les stoïciens du 1er siècle, le Logos est une sorte d'âme du monde, la raison divine et cosmique qui donne à l'univers sa cohésion. Ensuite, pour les Juifs, le Logos renvoie à la sagesse divine personnalisée dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament. C'est le Logos qui a créé le monde et qui le soutient. Lorsque les Hébreux lisaient leurs Écritures et rencontraient Yahvé, le nom personnel de Dieu, ils ne le prononçaient jamais, mais y substituaient le mot « Seigneur ». Or, nous dit Jean, Jésus est cette personne divine, Yahvé. Il était au commencement un moment hors du temps et qui précéda la création. C'est aussi au commencement que Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est, je le rappelle en passant, la première phrase du livre de la Genèse. Le Logos devance donc même l'éternité. Il n'est pas apparu il y a quelques milliards d'années ou plus. Il est dans l'état éternel hors de l'espace-temps. Cette parole a toujours été. D'ailleurs, à un moment donné, dans cet évangile, Jésus a dit aux Juifs « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». C'est exactement ce que veut dire l'apôtre Jean lorsqu'il écrit « Au commencement était la parole ». Cette affirmation se compose de cinq mots tirés du langage courant et pourtant nul ne peut en sonder la profondeur. Ensuite, Jean nous dit que la parole était avec Dieu, en sa compagnie, ce qui implique une différence au sein même de la divinité. Le Père et le Fils sont des personnes distinctes, mais engagées dans une relation de communion éternelle au sein de la Trinité dans laquelle Jésus-Christ a toujours été en relation avec son Père. En troisième lieu, Jean dit que la parole était Dieu. Le Logos est éternel. Non seulement il a une relation avec Dieu, mais il est lui-même Dieu. Il n'a pas, à un moment donné, commencé à exister ou à entrer en communion avec Dieu. Ils ont été, de toute éternité, en étroite intimité, l'un avec l'autre. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, et pourtant il n'y a qu'un seul Dieu. Ce mystère est insondable pour nous, êtres humains. Après avoir considéré les trois affirmations du premier verset de ce chapitre, voyons maintenant le 14e verset qui dit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ici aussi, Jean fait trois déclarations. La première est bien sûr que la parole est devenue homme, ayant été faite chair et os. Jean affirme fortement la réalité de l'incarnation. Le Logos éternel, qui est Dieu, n'a pas seulement pris l'apparence humaine, mais il est devenu lui-même un homme. Autrement dit, à sa divinité, Jésus-Christ a ajouté l'humanité. Et pourtant, en devenant chair, Jésus n'a pas changé d'un iota. Il s'est seulement déplacé. En lui, Dieu a quitté l'éternité et il est entré dans l'espace-temps à Bethléem sous la forme d'un bébé. Cependant, Jean ne mentionne pas sa naissance terrestre parce qu'il présente le Fils de Dieu dans toute sa majesté et il est bien trop grand pour s'accommoder d'un lieu de naissance. La seconde affirmation est que la parole a vécu parmi nous dans un corps comme le nôtre. En réalité, nous sommes tous confinés dans une boîte qui est notre habillage, notre enveloppe charnelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul contraste le corps de chair avec la maison que Dieu a préparée pour les siens quand il écrit « Nous le savons, en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Fin de citation. La tente que nous habitons est aussi une allusion au tabernacle de l'Ancien Testament, la tente de la rencontre où l'Éternel parlait tête à tête avec Moïse. La troisième déclaration du verset 14 du premier chapitre de Jean, « plénitude de grâce et de vérité » signifie que la gloire du Fils unique et éternel était totale, remplie à ras-bord de grâce et de vérité. Cette déclaration est la traduction de l'hébreu « riche en amour et en fidélité ». Dans l'Ancien Testament, l'Éternel se présente disant « L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Le mot « fidélité » peut aussi être traduit par « authenticité » ou « vérité ». Après avoir considéré les versets 1 et 14, voyons trois autres déclarations toujours dans le premier chapitre. Je lis « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Verset 18. Dieu est esprit et il est saint. Voilà pourquoi nul homme ne l'a vu ni ne peut le voir, comme l'écrit l'apôtre Paul. À la femme aux mœurs légères, allant puiser de l'eau au puits, Jésus a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. » Fin de citation. Mais alors que penser des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament? Le prophète Ésaïe déclare, et je le cite, « Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Fin de citation. Ésaïe avait effectivement vu une certaine manifestation de l'Éternel, soit de ses yeux, soit dans une vision, mais l'essence divine, la vraie nature de Dieu, ne lui avait pas été révélée. Elle ne l'a été qu'en Jésus. Moïse, qui jouissait d'une intimité avec l'Éternel par nul autre égalé, n'a pu le voir que de dos. En effet, Dieu lui a dit « Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. » Fin de citation. La seconde affirmation du verset 18 est que Dieu, le Fils unique, vit dans l'intimité du Père. Littéralement, le texte dit « le Dieu unique » ou encore « le seul Dieu ». C'est une façon d'exprimer le rapport entre Dieu le Père et Dieu le Fils à l'intérieur de la Trinité. Bien que Jean utilise un vocabulaire très simple, les vérités qu'il exprime sont des mystères profonds qui nous échappent complètement. La troisième affirmation de ce verset 18 est que le Fils nous a révélé le Père. Il est dit littéralement qu'il est l'exégète du Père. Le mot grec « exégésato » signifie « conduire dehors ». En d'autres mots, le Christ dans sa personne amena Dieu hors de son palais céleste à la vue de tous les hommes. Jésus a quitté l'éternité et en lui a été manifesté le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses. Il a revêtu une enveloppe charnelle pour faire connaître l'Éternel à tous les hommes. C'est grâce au ministère du Fils que la nature du Père invisible s'est révélée. Les 9 déclarations en 3 groupes de 3 que j'ai passées en revue peuvent être mises côte à côte de diverses manières. Par exemple, si je mets ensemble la première affirmation des 3 groupes, j'obtiens « au commencement était celui qui est la parole de Dieu ». Celui qui est la parole est devenu homme. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est une autre façon de décrire l'incarnation et de réfléchir sur la profonde signification de ces petites phrases, toutes simples, que nous propose l'apôtre Jean. Le Logos éternel est devenu homme parce que sans cela, nous n'aurions jamais pu connaître Dieu. Si je mets côte à côte les deuxièmes affirmations de ces 3 groupes, j'obtiens « la parole était avec Dieu, elle a vécu parmi nous, le Fils unique vit dans l'intimité du Père ». Ces 3 propositions indépendantes courtes se composent d'un vocabulaire élémentaire, mais leur portée me dépasse complètement. Ce passage dit en substance que la parole, le Logos éternel, a quitté l'intimité du Père pour venir monter sa tente au milieu de nous. Et si vous y croyez vraiment, cette vérité vous coupera le souffle. Dieu lui-même est descendu de l'éternité pour naître à Bethléem et apprendre le métier de charpentier à Nazareth avant de révéler la personne divine pendant 3 ans. Ensuite, il s'est livré lui-même afin d'être assassiné pour racheter une humanité perdue. Enfin, il a triomphé du tombeau et du mal en ressuscitant des morts. C'est aussi votre ultime destinée si vous placez votre confiance en Jésus-Christ.